Bonsoir à tous. Première petite tâche pour chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui ont un téléphone portable de penser à le mettre en vibreur s'il veut bien s'éteindre, ce que je ne manquerai pas de faire dès que je procède de mes cours. Bonsoir, donc vous êtes ici à une soirée organisée par Survie Paris pour la sortie du dernier livre écrit par des auteurs de l'association. Je vois des gens qui continuent à rentrer. N'hésitez pas à venir, il y a des chaises au premier rang. Bonsoir à tous. Je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière. Dans l'histoire de Survie, le génocide des Tutsis au Rwanda et les responsabilités françaises dans ce génocide tiennent une place particulièrement importante. Pour ceux qui nous connaissent, je vais me répéter, mais voilà, il y a toujours quelqu'un de nouveau dans la salle. Dès 1993, le président de Survie à l'époque, Jean Carbonard, a pu participer à une mission internationale de la Fédération internationale des droits de l'homme et de HRW qui allait, à la demande d'une association des droits de l'homme au Rwanda, enquêter sur la situation. On leur a montré des fosses communes, on leur a montré des caches d'armes. Ils sont revenus convaincus que le pire était à venir. À ce moment-là, le collectif a décidé de rédiger un rapport de fin de mission. Carbonard est allé un peu plus vite, parfois à l'exemple de ce que fait notre association, c'est-à-dire qu'il a à la fois rencontré la cellule africaine de l'Élysée pour alerter de la situation, et puis il a pu passer dans un journal télévisé de la deuxième chaîne, qui est toujours visible, bien sûr, sur Internet. Et dans ce moment, il interpelle le public et le journaliste sur le pire est à venir, qu'allez-vous faire maintenant que vous savez ? J'avance un peu. Pendant le génocide, les familles qui étaient ici, qui avaient les leurs au Rwanda, qui connaissaient déjà Survie, ont énormément pris contact avec celle qui recueillait les témoignages, Sharon Courtou, qui nous a quittés l'été dernier. L'association a énormément écrit dès cette période, mais s'est aussi mobilisée à Paris, mais dans les groupes locaux. Les gens, par exemple, tournaient en rond pendant des heures pour dénoncer ce monde qui ne tournait pas rond. Cette phrase m'a toujours marquée. Pendant les 100 jours, l'association s'est mobilisée, et là 120. Juste après, et dès l'automne 1994, François-Xavier Verchard a sorti le premier livre sur le génocide, à ma connaissance, qui est « Complicité de génocide, la politique africaine, la politique de la France au Rwanda ». Ce livre a été réédité par l'association plus récemment. Il est toujours d'actualité. Et j'en parlais avec François tout à l'heure, et il me disait qu'en fait, l'essentiel de ce livre dénonce déjà des réalités dont ce livre va nous apporter la preuve, les preuves. Parallèlement, donc Sharon continue à recevoir des gens et a commencé des recherches sur les génocidaires qui étaient accueillis en France. Parce qu'hélas, nous avons accueilli sur ce territoire beaucoup de génocidaires dès la période de la commission du génocide, d'ailleurs, notamment la veuve de Habyarimana, Madame Kanziga. Donc des témoignages ont été recueillis afin de pouvoir déposer des plaintes. À l'époque, l'association ne pouvait pas déposer de plaintes dans ses statuts. Il a fallu, quelques années plus tard, modifier les statuts. Et maintenant, parallèlement à ces plaintes qui existent, et nous parlerons sûrement d'elles pendant les questions, eh bien, les membres de l'association se plongent pour comprendre plus avant ce qui s'est passé, font des recherches et communiquent comme mes deux partenaires vont le faire ce soir. Je vous présente brièvement Raphaël Doridan est membre du comité de rédaction de Bielafrique. Il a coordonné le livre qui a été sorti en 2009 avec Olivier Timonier. François, de son côté, est auteur en 2014 du livre sur les dires des militaires français, celui de 2014, je ne me trompe pas. Et tous les deux ont donc fait les recherches qui ont abouti à la sortie de ce livre qui actualise nos connaissances à 2019. Voilà, je leur laisse maintenant la parole.
Bonsoir, merci d'être venu pour ce sujet pas facile. On va essayer d'être bref pour laisser plus de temps possible aux questions et au débat, à la discussion. Quelques mots d'abord pour expliquer pourquoi on a fait ce livre. Et la raison, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est ce qu'on disait, c'était le mot d'ordre après le génocide des Juifs d'Europe. Le régime de Vichy y avait contribué directement. Et malgré le plus jamais ça, voilà que 50 ans plus tard, survient le génocide des Tutsis. Et à nouveau se pose la question du rôle de l'État français. Ce qu'on voulait, c'était proposer un ouvrage qui soit à la fois synthétique et pédagogique pour permettre à tout le monde, et en particulier aux Français, aux citoyens français, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette complicité qui, cette fois, est indirecte, mais à nouveau dans un deuxième génocide. Et évidemment, notre motivation, c'est de faire que ça ne se reproduise pas. Je précise qu'on n'avait pas de relation personnelle avec des Rwandais avant le génocide de 1994, ni Raphaël ni moi. On a été extrêmement choqués par ce qui s'est passé, d'une part, et d'autre part, on a aussi été extrêmement choqués par les accusations portées contre la France. Surtout que tous les deux, on était plutôt, disons, des citoyens respectueux à la fois de la France, de son histoire, de la patrie des droits de l'homme. Donc ça nous a beaucoup touchés parce que la politique française au Rwanda, ça concerne vraiment au plus haut point la démocratie française. Et c'est ça un des messages vraiment qu'on voudrait faire passer ce soir, c'est que c'est d'une actualité brûlante. C'est sur la démocratie française et son fonctionnement. La question c'est qui décide quoi au nom des Français. Et ça, c'est une question qui n'a pas pris une ride. Et là, bah, la question sous-jacente, hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire que d'être citoyen d'un État dont le chef mène secrètement une politique de soutien à un groupe génocidaire. Alors il y a une deuxième raison pour nous d'écrire ce livre, c'est le respect dû aux victimes rwandaises et à leurs familles. On a entendu leurs récits, ils nous ont profondément touchés, et c'est pour ça qu'il a paru important d'écrire le dernier chapitre du livre, celui qui porte sur le négationnisme, parce que le négationnisme, c'est une manière d'assassiner les victimes une seconde fois. Je passe la parole à Raphaël pour nous parler un petit peu de l'historique de ce qui s'est passé.
Oui, pour essayer, on a décidé donc avec François d'abord de présenter les faits puis d'attendre les questions pour le reste. Alors au Rwanda, il n'y a pas d'ethnie. Il y a trois groupes sociaux dans le Rwanda précolonial. Les Hutus, qui sont des cultivateurs majoritairement, les Tutsis, des éleveurs, et puis les Twa, qui sont des potiers, des chasseurs. L'appartenance à ces groupes n'est pas le critère déterminant de l'identité sociale, même si le pays est dirigé par une dynastie royale Tutsi, qui s'appuie principalement sur une aristocratie Tutsi, une minorité d'entre eux. C'est le regard du colonisateur européen, allemand, puis belge, qui va faire de ces catégories et des races. À l'époque, on est dans cette anthropologie raciste européenne, et les colonisateurs vont postuler la supériorité de la race Tutsi, qu'ils assimilent à la race blanche. Dans les années 1950, le Rwanda est colonisé à partir de la fin du 19e par les Allemands, puis ce sont les Belges qui s'installent à partir de 1916. Et dans les années 50, l'élite Tutsi demande l'indépendance. La Belgique et l'Église catholique, toute puissante au Rwanda, renversent à ce moment-là l'alliance qu'elles avaient avec cette élite Tutsi pour promouvoir une élite Hutu. Cette élite Hutu va fonder son pouvoir sur le rejet de ce qu'elle appelle la féodalité Tutsi et sur le déni de l'appartenance des Tutsis à la nation rwandaise authentique. Les Tutsis sont désignés comme des seigneurs qui sont venus envahir ce pays, l'occuper quelques siècles avant. En 1959, appuyé par la puissance coloniale belge et par l'Église, cette élite Hutu prend le pouvoir. Commence alors une série de persécutions contre les Tutsis. En 1959, en 63, il y a au moins 10 000 morts du côté de Gikongoro, dans le sud-ouest. En 73, le film Notre-Dame du Nil, qui est actuellement sur les écrans, parle de cette situation de 1973. À chaque fois, des centaines de milliers de Rwandais Tutsis prennent le chemin de l'exil, pour les pays voisins, Ouganda, Tanzanie, Burundi. Dans les années 80, ces exilés et leurs descendants constituent le Front patriotique rwandais, dont Paul Kagame est à l'époque un des dirigeants militaires. Ce FPR demande le retour des exilés au Rwanda, ce qui est refusé par le président de l'époque, le président Juvénal Habyarimana. En octobre 1990, le Front patriotique rwandais attaque le Rwanda depuis l'Ouganda. Le régime Habyarimana est fragilisé, très corrompu. Il y a un groupe autour de la femme du président qui tient le pays en coupe réglée. Il y a eu des mauvaises récoltes dans les années 80. Le régime est fragile, le président est contesté. Mais ce régime reçoit immédiatement le soutien de la France, où François Mitterrand est président de la République à ce moment-là. Un soutien militaire pour tenir le choc face à l'attaque du FPR. C'est un soutien qui ne se démentira pas, qui ira jusqu'à la prise en main indirecte de l'armée rwandaise par des officiers français en février 1993. Entre le 1er octobre 1990 et puis la fin de l'année 93, des troupes françaises seront présentes au Rwanda, plus ou moins nombreuses, ça dépend des moments. Parce que parallèlement à la guerre entre le FPR et le Rwanda, une partie de la population rwandaise a soif de démocratie. Et Habyarimana est obligé de lâcher du lest. À partir du printemps 1992, son gouvernement est composé en partie de membres de l'opposition. Son premier ministre est un opposant, opposant Hutu, mais un opposant quand même. C'est ce gouvernement qui va négocier avec le FPR dans une succession d'offensives militaires, suivie ensuite de cessez-le-feu, reprise des négociations. Ça va durer jusqu'au mois d'août 1993. La France soutient le régime Habyarimana alors qu'elle sait depuis 1990 que les plus hauts responsables militaires rwandais ont en tête l'idée d'un génocide des Tutsis, une extermination de cette minorité de la population. Des massacres de Tutsis ont d'ailleurs lieu en 1990, 91, 92, 93. Les autorités françaises y sont peu sensibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles interprètent la situation rwandaise en termes de guerre extérieure, puisque le FPR vient d'Ouganda, et plutôt qu'en termes de guerre civile. En même temps, elles soutiennent, au moins jusqu'à 1992, jusqu'à l'été 1992, elles soutiennent partiellement la démocratisation du Rwanda. Elles vont notamment demander à Habyarimana de prendre un premier ministre d'opposition en avril 1992. Mais ce soutien à la démocratisation s'arrête au début de l'année 1993. Février 1993, c'est vraiment le moment, le point de bascule où les autorités françaises vont se mettre à soutenir objectivement les extrémistes hutus. Au moment où la commission internationale d'enquête dont a parlé Laurence, la commission à laquelle appartenait Jean Carbonard, est au Rwanda, rend un rapport présenté à Bruno Delay, qui est à l'époque le conseiller Afrique de Mitterrand. Donc les autorités françaises n'ignorent pas ce qui se passe. Le rapport dit c'est au sommet de l'État rwandais, le président est au courant de ce qui se passe, le président cautionne, organise ces massacres de Tutsis qui ont déjà lieu à petite échelle. Ça n'empêche pas le ministre français de la coopération de l'époque, en visite à Kigali, d'appeler à un front commun des Hutus pour combattre le FPR. Et, parallèlement à ça, une propagande visant à diaboliser le FPR est mise en œuvre par des secteurs de l'armée française, sous l'égide du chef d'état-major de l'époque, l'amiral Jacques Langsade. Malgré tout, le processus de négociation entre le FPR et le gouvernement rwandais se poursuit à Arusha, en Tanzanie. Et ce processus, bien que combattu âprement par le petit cercle d'extrémistes hutus rassemblés autour d'Agathe Kanziga, la femme d'Habyarimana, dont fait partie le colonel Bagosora, ce petit cercle d'extrémistes n'arrive pas à empêcher que ces accords soient signés en août 1993, les accords d'Arusha, le dernier protocole qui prévoit une transition politique incluant le FPR et la présence d'un contingent de casques bleus. En octobre 1993, l'assassinat du président Burundi Ndadaye, un président Hutu, par des militaires tutsis putschistes, douche les espoirs de peu au Rwanda. Parce que la propagande des extrémistes Hutus, c'était de dire au Rwanda, les Tutsis, le FPR prépare notre extermination. Il faut qu'on se défende. Et voilà tout à coup un événement qui vient conforter ce discours. Ils vont donc déstabiliser le pays dans les mois qui vont suivre. Ils préparent depuis au minimum l'automne 92 l'extermination des Tutsis. Ils fomentent un coup d'État au printemps 94. Un coup d'État dont le premier acte est l'assassinat du président Habyarimana le 6 avril 1994. Habyarimana était en effet jugé trop conciliant par ses extrémistes. Il venait d'accepter d'exclure le parti Hutu le plus extrémiste des institutions politiques de transition. Cet attentat du 6 avril 1994 est immédiatement suivi du déclenchement du génocide des Tutsis et de l'assassinat dans la nuit du 6 au 7 avril et dans la matinée du 7 des responsables politiques Hutus favorables aux accords de paix avec le FPR, favorables à Arusha, dont la première ministre de l'époque. Un gouvernement intérimaire composé d'extrémistes Hutus, qui est en quelque sorte la vitrine des officiers extrémistes rassemblés autour de Bagosora, est mis en place avec l'assentiment de l'ambassade de France. Il est constitué en partie dans l'ambassade. L'ambassadeur Marlot participe à des réunions, s'en vante même auprès de son collègue belge. C'est ce gouvernement qui va organiser ensuite l'extermination de 800 000 Tutsis, selon Gérard Prunier, voire de plus d'un million, selon un recensement officiel du gouvernement rwandais d'après le génocide. Un génocide qui est rendu possible par la mobilisation de tout l'appareil d'État, l'appareil civil et militaire, l'armée, une grande partie des unités militaires, et par la mobilisation d'une partie de la population Hutu fanatisée par la radio des mille collines, Radio Rwanda, aussi la radio d'État, mais surtout la radio des mille collines. Malgré leur résistance, les Tutsis rwandais sont tués par dizaines de milliers. On ne peut pas résister avec des pierres à des assaillants qui vous attaquent à la grenade et au fusil quand vous êtes rassemblés dans des églises, quand vous êtes rassemblés dans des stades. Vous n'avez pas la possibilité de résister. Vous êtes, quand vous êtes affaibli et blessé, vous êtes ensuite achevé à la machette. Alors la France, elle organise une opération d'évacuation de ses ressortissants en avril, quelques jours, après le début du génocide. Les militaires français vont évacuer aussi des dignitaires du régime Habyarimana, dont sa veuve Agathe Kanziga, qui sera accueillie à Paris avec un bouquet de fleurs et 200 000 francs, malgré les protestations d'une partie des membres du personnel du ministère de la Coopération. C'est pour dire qu'on sait exactement déjà à l'époque ce qui se passe, sinon ces fonctionnaires français n'auraient pas protesté contre ce qui se passait. C'est le président Mitterrand lui-même qui a demandé qu'on accueille Madame Kanziga, la veuve Habyarimana. Les employés Tutsis de l'ambassade de France et du centre culturel à Kigali sont, eux, abandonnés à leurs tueurs. Les autorités françaises offrent aussi un soutien politique, diplomatique, militaire au gouvernement génocidaire et à son armée, fin avril, au mois de mai. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement génocidaire est reçu par le Premier ministre Édouard Balladur, par le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et par le conseiller Afrique de François Mitterrand. Des armes, des munitions surtout, sont livrées aux forces armées rwandaises. Un officier de l'état-major rwandais est reçu par le général Jean-Pierre Huchon, le chef de la mission militaire de coopération. Le rapport de mission de cet officier, qui date... La visite a eu lieu autour du 9 au 12 mai, je crois, est édifiant, parce que le général français dit à l'officier rwandais « On ne peut pas faire d'intervention en votre faveur parce que l'opinion internationale est contre vous. Les médias disent que ce qui se passe au Rwanda, ce n'est pas bien ce que vous faites. On ne pourra pas vous aider si vous ne retournez pas votre image. » La situation de ce gouvernement génocidaire est de plus en plus difficile. Et le 22 mai, le président rwandais par intérim va écrire à François Mitterrand pour que la France, qui est intervenue si souvent sous la présidence Habyarimana pour sauver le régime face au FPR, intervienne à nouveau.
Alors ça va être l'opération turquoise, et cette opération turquoise, elle est faite, elle est décidée sous, en juin 1994 sous des pressions de plusieurs sortes. Donc effectivement, un des déclencheurs, c'est cette lettre du président par intérim Sinikou Wabo. Il y a aussi une réunion de dirigeants de ce qu'on appelle le précaré africain, donc de dirigeants des pays de la zone d'influence française qui se réunissent et qui font pression sur le gouvernement français pour qu'il intervienne. Il y a des appels de plus en plus pressants dans l'opinion publique française, en particulier de différentes associations humanitaires, différentes associations tout court, Survie en fait partie, des intellectuels qui appellent à ce que la France cesse son soutien au régime rwandais et aille plutôt intervenir pour faire cesser le génocide. Il y a des appels intellectuels, et puis il y a la volonté pour certains, en particulier de l'armée, du côté de l'armée française, de restaurer l'image de la France, qui a été sérieusement écornée, et puisque c'est ses alliés qui font le génocide. Et un autre, enfin, de ces déclencheurs est peut-être le fait que Nelson Mandela, qui est une figure reconnue à l'époque, qui dit que c'est incroyable qu'on n'intervienne pas et qu'il va falloir que les Africains interviennent pour prendre leur destin en main. Et Mitterrand veut éviter que ce soit quelqu'un d'autre qui, justement, dirige le jeu. Donc, en tout cas, cette mi-juin, cette opération est décidée. Elle a avec un habillage humanitaire, hein, c'est un masque humanitaire sur cette opération, et on verra que petit à petit ce masque va devenir une certaine réalité, mais au départ il s'agit bien en fait dans l'esprit des organisateurs d'une opération militaire qui a pour but d'une part d'empêcher le FPR de conquérir l'ensemble du Rwanda tant qu'il est encore temps, et d'autre part de pouvoir récupérer et évacuer les quelques militaires français qui sont présents pendant le génocide, du côté des gouvernementales, et aussi un certain nombre de leurs collaborateurs. Le consensus est un petit peu difficile au sein de l'exécutif français. Il y a en fait une fracture qui se fait, assez nette, avec d'un côté les partisans de l'intervention, essentiellement l'Élysée, et puis le ministère des Affaires étrangères avec Alain Juppé et Dominique de Villepin, qui sont sur la même longueur d'onde. Et puis de l'autre côté, le ministre de la Défense, qui n'est pas pour l'intervention, il est lui avec le Premier ministre Balladur et Michel Roussin, ministre de la Coopération, et ils sont sur une ligne beaucoup moins interventionniste. Essentiellement, cette fracture recouvre les fractures au sein du parti de droite de l'époque, le RPR, entre les Chiraciens et les Balduriens, beaucoup, c'est cette fracture-là qu'on retrouve, et puis une vision aussi géopolitique plus atlantiste ou plus france-africaine, disons, on va dire. Mais globalement, il n'y a aucune motivation, ni d'un côté ni de l'autre, qui soit extrêmement préoccupé par le sort lui-même des Tutsis. En tout cas, et cette fracture, on la retrouve aussi au sein de l'armée. Il y a une dichotomie aussi. L'armée n'est pas monolithique dans cette histoire. Alors, la France s'adresse au Conseil de sécurité de l'ONU, demande l'autorisation d'intervenir, et le 22 juin, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui l'autorise à intervenir de façon impartiale et neutre, à condition de ne pas s'interposer entre les parties, c'est-à-dire entre les forces armées rwandaises et le Front patriotique, et en lui demandant de mettre fin au massacre. Alors, Turquoise est une... Les apparences sont une très belle opération, sur le plan militaire, en très peu de temps, en moins d'une semaine. Une des plus grosses opérations extérieures françaises est montée, et le général Lafourcade qui la dirige s'installe à Goma, au Zaïre, mais juste à la limite du Rwanda. Et progressivement, il va y avoir jusqu'à 3000 hommes, bien équipés, bien formés, avec des avions, avec 8 avions de chasse, qui vont s'installer et donc se déployer. Avec de la logistique, c'est-à-dire du soutien matériel qui correspond très bien à une proportion de gens d'hommes au soutien et d'hommes non combattants qui correspond tout à fait à ce qu'on attend d'une opération militaire et qui va se révéler insuffisant quand il faudra faire de l'humanitaire, où là, la logistique devient beaucoup plus importante. En particulier, il n'y a pas l'aspect médical et nourriture qui suit pour l'instant. L'aspect militaire de l'opération apparaît clairement au début quand il s'agit d'aller progressivement en direction de Kigali, la capitale. Et jusqu'au 25 juin, donc dans les tout premiers jours, c'est encore la direction dans laquelle doit aller l'armée. À partir du 26 juin, l'avancée du FPR fait que cet ordre est progressivement abandonné. Il reste quand même la préoccupation de mettre un coup d'arrêt au FPR avec deux tentatives. Une le 30 juin, dans ce qui s'appelle la forêt de Nyungwe, et dans le sud-ouest du Rwanda, et le 4 juillet, au niveau de la défense de la ville de Gikongoro. Donc autrement dit, la France essaie d'arrêter le FPR quand il est déjà bien avancé, qu'il a presque atteint le sud-ouest du Rwanda. Il s'agit de garder un petit terrain au moins dans le sud-ouest. Et cette préoccupation de bloquer le FPR a certainement joué un rôle dans un des épisodes clés, qui est le fait que les rescapés Tutsi de Bisesero ont été abandonnés à leur tueur. Je ne vais pas le développer maintenant, mais on peut revenir longuement s'il y a des questions dessus. Cet épisode de Bisesero, on peut le préciser, est le premier contact avec le génocide pour certains militaires français qui arrivent et qui n'ont pas été correctement informés du contexte dans lequel ils intervenaient, qui ne savaient pas qu'ils intervenaient dans le cadre du génocide des Tutsis. Et les militaires français qui finalement sont mieux informés sont ceux qui étaient déjà venus au Rwanda avant, dans les années précédant le génocide, et ceux-là avaient servi aux côtés des forces armées rwandaises et donc avaient un a priori relativement favorable pour ces forces armées rwandaises qui entre-temps ont largement participé au génocide. Alors après Bisesero, à partir du début juillet, on commence à voir une coloration humanitaire qui arrive de plus en plus nettement. Et en particulier, peu à peu, les militaires français se mettent à faire des sauvetages de rescapés Tutsis, de ceux qui ont été cachés pendant le génocide et qui ont réussi à survivre pendant tout ce temps-là. Et avec, certaines fois, un grand courage, parce que ces Tutsis sont encore menacés, les militaires français multiplient les interventions de sauvetage. Les Tutsis sont rassemblés dans des camps où ils sont protégés par les militaires français, où on manque encore de nourriture, mais il y a au moins un gros progrès de ce côté-là. Mais on est encore début juillet 1994, et donc il y a une dualité de l'opération, montée en puissance de cette préoccupation humanitaire, mais toujours la préoccupation de bloquer l'avancée du FPR, ou au minimum d'obtenir un cessez-le-feu pour que le FPR cesse son avancée et qu'il puisse avoir une zone sous contrôle, ce que certains Français appellent le pays Hutu, ce qui était un petit peu incompréhensible quand on sait combien la société rwandaise est mixte et n'a pas de distinction ethnique entre les Hutus et les Tutsis, et encore moins géographique. Mais les Français essaient de définir une zone à l'ouest du Rwanda sur laquelle ils puissent encore avoir un contrôle et qui puisse servir de base pour des négociations. Et ça amène à la France à protéger le repli de ses alliés et à leur permettre d'éviter une déroute trop grave pendant leur repli vers le Zaïre. Et donc, pour ça, Turquoise est amené à protéger les forces armées rwandaises. Donc, malgré le mandat de l'ONU qui interdisait toute interposition, la France délimite une zone qu'elle appelle zone humanitaire sûre, dans un recoin sud-ouest du Rwanda, et dans lesquelles les forces armées rwandaises peuvent venir. Officiellement, elles sont désarmées, mais d'une part, un certain nombre gardent ses armes ou passent au Zaïre en gardant ses armes. Un certain nombre sont désarmés, mais surtout, et ça c'est une des choses qui va être le plus reprochée à l'opération Turquoise, des livraisons d'armes continuent à destination de ces troupes de l'armée rwandaise en déroute. Des livraisons d'armes qui passent par l'aéroport, le seul aéroport disponible dans la région, qui est l'aéroport de Goma, là où les troupes françaises ont installé leur poste de commandement et qui est donc là où elles contrôlent essentiellement le trafic de l'aéroport. Cette volonté de protéger le repli de nos alliés et de sanctuariser une zone dans le sud-ouest fait que amène à des positions parfois acrobatiques, en particulier face aux miliciens, les miliciens qui ont participé activement au génocide des Tutsis, et qui sont considérés comme, par certains officiers français comme faisant la guerre, et que donc il faut laisser faire, par souci de neutralité, il ne faut pas les désarmer, il faut leur laisser continuer à agir. Et donc il y a une dichotomie entre la volonté officiellement de désarmer les milices et la volonté de maintenir des combattants sans les gêner. Ça amène aussi les Français à avoir des contacts privilégiés avec les autorités locales, donc les autorités administratives, les maires, parce qu'on a, qui s'appellent les bourgmestres là-bas, ou les préfets, qui représentent donc le gouvernement. Les maires, les bourgmestres sont aussi nommés par le haut, par le gouvernement. Et sous prétexte de maintenir une administration, les Français, l'armée française est incitée à coopérer avec ces autorités, à les aider à rétablir, maintenir leur autorité. Or, ben, tous ces bourgmestres et préfets qui sont encore en poste à la fin du génocide, c'est ceux qui ont du sang sur les mains, c'est ceux qui ont participé et qui ont été dans le sens du gouvernement. Alors, le gouvernement lui-même, le gouvernement intérimaire, à un moment se réfugie dans la zone humanitaire sûre, et après de longs débats dans l'exécutif français sur savoir est-ce qu'il faut les arrêter ou pas, et bien, avant même que le débat soit complètement tranché, l'armée française favorise leur départ vers les Zaïres, les encourage à partir, et alors que la fracture au sein de l'exécutif est à peu près la même que celle que j'ai décrite, hein, Balladur dit « il n'était pas question pour moi de laisser ce gouvernement partir aux Zaïres impunément, et il n'était pas question pour Mitterrand des châtiers », et bien finalement c'est la ligne Mitterrand qui triomphe, et ce gouvernement passe aux Zaïres. Alors il passe avec quoi ? Avec les forces armées rwandaises, une large partie, avec des miliciens en grand nombre, avec les radios de la haine, Radio des Mille Collines et Radio Rwanda qui ont appelé au meurtre des Tutsis et qui continuent à le faire. Et puis surtout, ils emmènent avec eux énormément de civils. Ils font une politique de la terre brûlée, ils poussent à l'exode un nombre gigantesque de civils, donc des Hutus essentiellement, qui vont avancer et de plus en plus vers l'ouest et de plus en plus aux Zaïres, avec le fait que le pays qui est laissé à l'avancée du FPR est donc un pays vide, pillé, donc il n'y a plus de matériel, plus d'habitants. Et surtout, les réfugiés Hutus vont aller s'entasser aux Zaïres dans des conditions catastrophiques où il va y avoir des épidémies de choléra puis de dysenterie à Chiguel qui font des dizaines de milliers de morts. Tout ça c'est mi-juillet, hein, essentiellement la déroute complète du gouvernement génocidaire, la déroute de l'armée rwandaise, le fait que le Front Patriotique prend à ce moment-là le contrôle de l'ensemble du Rwanda, installe un gouvernement à Kigali, qui est en gros l'ancêtre du gouvernement actuel, le gouvernement du Front Patriotique en bonne partie. À ce moment-là, Turquoise n'a plus du tout de vocation militaire, il n'y a plus d'objectif militaire, et elle devient complètement une opération humanitaire. Donc le deuxième mois de l'opération Turquoise, de mi-juillet au 22 août, là c'est une opération humanitaire, c'est-à-dire qu'elle sécurise les zones, elle permet aux associations humanitaires de fonctionner essentiellement, elle essaie de les aider à lutter contre le choléra, avec un bilan relativement limité, puisque quand on écoute ce que disent les militaires eux-mêmes, les militaires français eux-mêmes de ça, il y en a un qui dit que l'humanitaire n'était qu'une façade, et l'autre qui, quand il, dans son rapport final, dit « l'humanitaire, c'est le grand échec de Turquoise ». C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de morts, en particulier des épidémies, montre bien que Turquoise n'a rien pu faire pour enrayer l'exode, et en tout cas n'a pas activement enrayé l'exode, qui est la cause directe de toutes ces morts. Et c'est essentiellement ce qui met fin au génocide, c'est le fait que le FPR prenne le contrôle du pays, et non pas l'action de l'opération Turquoise.
Alors la population Hutu, une partie d'entre elles, le quart de la population, est donc réfugiée aux Zaïres. beaucoup, 1 million à Goma, plus de 300 000 à Bukavu, un peu en Tanzanie aussi. Et au mois d'août 1994, comme l'a dit François, Turquoise est essentiellement une opération humanitaire, mais quasiment, tu as dit, mais il y a encore des contacts entre les officiers français, qui eux aussi sont aux Zaïre à Goma, et les officiers des forces armées rwandaises. Les FAR, les forces armées rwandaises, reçoivent 10 tonnes de nourriture en juillet. C'est pas seulement la population Hutu qu'on va aider, celle qui souffre du choléra à Goma, mais c'est aussi, de la part des Français, une aide à la réorganisation de ces auteurs du génocide. Des chefs militaires importants, le colonel Bagosora et puis un chef milicien aussi, sont convoyés en avion par des militaires français dans des destinations, on ne sait pas au juste, ce sont des rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch qui disent ça. Les camps de réfugiés, quant à eux, qui sont installés très près de la frontière avec le Rwanda, sont installés au Zaïre, mais très près de la frontière, ce qui n'est pas conforme aux préconisations internationales. Il faudrait au moins 50 km. Les camps de réfugiés sont sous la coupe complète des auteurs du génocide, c'est-à-dire qu'on reconstitue l'administration, les bourgmestres, les préfets, dans les camps. Ils tiennent les camps. Et ils détournent une partie de la nourriture qui est donnée aux réfugiés. On augmente le nombre de réfugiés pour avoir plus de nourriture. Et avec ça, on se rachète des armes. Alors, en octobre 1994, malgré tout, une partie de ces Rwandais Hutus qui sont au Zaïre, 360 000 environ, sont rentrés au Rwanda. Ils ont leur vie au Rwanda et puis la vie dans les camps. On peut imaginer ce que c'est. Cette situation, évidemment, n'arrange pas du tout les auteurs du génocide, qui vont empêcher la population de rentrer, ces Rwandais de rentrer. Les ONG, quant à elles, en novembre 1994, voyant la situation, voyant que les camps sont sous la coupe des génocidaires, que des armes y circulent, et voyant qu'il y a une réorganisation de ces auteurs du génocide, une partie des ONG quitte les camps, dont Médecins Sans Frontières décide qu'ils ne vont pas aider, ils arrêtent d'aider. Les autorités françaises, de leur côté, elles aident au réarmement, au moins jusqu'au printemps 1995. Il y a également un certain nombre de soldats des FAR qui sont emmenés en Centrafrique pour se réentraîner sur des bases françaises, parce que les officiers, le haut commandement des FAR, va supplanter ce qui reste du gouvernement intérimaire dans la tentative de reconquérir le Rwanda. Et donc ils vont former un parti politique vitrine, le Rassemblement pour la démocratie et le retour des réfugiés. Et c'est donc l'ancien chef d'état-major des FARC, le général Bizimungu, qui va, en décembre 1995, avec Agathe Kanziga, rencontrer au Zaïre le président Mobutu, mais en présence, si on en croit Andrew Wallis dans son livre « Stepped in Blood », il ne donne pas plus de référence que ça, en présence de 3 officiers français, dont un officier, le colonel Gilbert Canovas, qui était déjà présent au Rwanda en 90-91. Toujours en décembre 95, une autre réunion a lieu en Libye. C'est toujours Andrew Wallis qui écrit ça. Agathe Kanziga y est, Mobutu, et puis le conseiller militaire du président Jacques Chirac. Ce qui est discuté, c'est comment reconquérir le Rwanda. On parle éventuellement de mercenaires français, on évoque des idées comme ça. Donc on voit bien qu'en face, dans un Rwanda, que le gouvernement multipartite, qui est effectivement dominé par le FPR, mais qui reprend aussi les différents partis prévus dans les institutions de transition d'Arusha, ceux qui n'ont pas été tués, les membres des partis d'opposition Hutu, avec le vice-président Paul Kagame, ce gouvernement essaie de reconstruire un pays avec à ses frontières la menace d'une invasion. Une menace qui est si forte que les Nations Unies créent une commission d'enquête sur le réarmement. Et cette commission d'enquête écrit à l'été 96, je me trompe peut-être sur la date, mais en tout cas elle écrit que 50 000 soldats sont prêts à prendre le pays en tenaille depuis le Zaïre d'une part et la Tanzanie de l'autre côté. Le président Kagame et le vice-président Kagame, le 4 juillet 1996, indiquent que s'il faut aller chercher les auteurs du génocide, on ira les chercher. Ils seront à l'été à Washington pour dire aussi « ça suffit ». Le Rwanda a demandé depuis longtemps qu'on sépare dans les camps les vrais réfugiés des auteurs du génocide. Ça n'a pas été fait par la communauté internationale. On pourrait parler de l'ONU et de la faillite de l'ONU du début à la fin, à part la présence de ce contingent avec le général Roméo Dallaire pendant tout le génocide. Et donc, en octobre 1996, le Rwanda va attaquer les génocidaires qui sont au Zaïre avec une alliance de forces congolaises conduites par Laurent Désiré Kabila. Et autour de Goma, il y a des très grands camps qui vont être à ce moment-là vidés et des centaines de milliers, 800 000 Rwandais ou tout, vont reprendre la direction du Rwanda à ce moment-là. La France, dans cette affaire, va essayer de sauver la mise à son ami Mobutu. On essaiera d'envoyer des mercenaires, notamment des mercenaires serbes. Mais le régime de Mobutu s'effondre. Mobutu ne payait pas ses soldats, c'était un régime extrêmement corrompu. Même sa division présidentielle ne tenait pas le choc. Les seuls qui ont combattu un peu, c'était des anciens génocidaires qui se sont battus. Cette politique française de sauver la mise au génocidaire a été dénoncée dans un rapport de l'OUA en 2000. Je terminerai juste là-dessus pour citer ces quelques lignes qui sont quand même très accusatrices. C'était un panel de 7 ou 9 personnalités avec d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents de cours suprême de différents pays, pays scandinaves. Il y avait aussi une indienne, une personnalité indienne. Et ce rapport dit ceci: on peut difficilement sous-estimer les conséquences de la politique française. La fuite des génocidaires au Zaïre engendra, ce qui était presque inévitable, une nouvelle étape plus complexe de la tragédie rwandaise et la transforma en un conflit qui embrasa rapidement toute l'Afrique centrale. Voilà, nous ne voulions pas être trop longs avec François, et puis nous voulions maintenant plutôt discuter avec vous, prendre des questions, voir si vous avez des choses aussi à dire, des éléments d'information à apporter. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir, j'ai deux questions à poser. La première, c'est est-ce que c'est vrai que les gendarmes français avaient fait un fichage de la population justement pour pouvoir séparer les différentes appartenances Hutu, Tutsi, bien avant ça, et ce qui aurait permis d'accélérer un petit peu le travail. Et la deuxième chose, c'est que vous n'avez pas du tout abordé les problèmes économiques. On sait que quand la France fait quelque chose, c'est pas pour rien, surtout en Afrique. Est-ce que là, il y avait un intérêt direct au Rwanda ?
Comme on est deux, c'est pour ça qu'on a des conciliabules, il faut juste qu'on se partage les réponses. Alors sur le fichage, ça c'est une question épineuse, il faut faire très attention de ne pas être attaqué en diffamation par le colonel Robardet. Donc, ces gendarmes, la gendarmerie rwandaise à ce moment-là, mais Jean-François, tu apporteras des éléments, hein, au cas où. La gendarmerie rwandaise, elle est réorganisée avec la coopération française. Et notamment le centre de recherche et de documentation criminelle, qui était un endroit très mal famé, avec des gens qui ne savaient pas faire du travail de police judiciaire, est effectivement transformé. Il y a de nouveaux officiers de police judiciaire rwandais qui sont formés par les Français. Et il y a une satisfaction du ministre rwandais de la Justice, qui est un opposant. Hein, c'est un opposant à Berimana. Alors après, sur les fichiers. Ce que font aussi les gendarmes français, c'est qu'ils informatisent des fichiers qui existaient déjà. Et sur ces fichiers, il y avait des informations qui permettaient de savoir effectivement si les gens étaient Tutsis ou Hutu. Voilà ce que j'en sais sur ce sujet. Et le général Varret, ça peut-être tu peux dire un mot, parce que toi tu as rencontré le général Varret, le général Varret, lui, qui dirigeait à l'époque la mission militaire de coopération, qui était le patron de ses coopérants gendarmes au Rwanda, estimait qu'il y avait effectivement un risque, et il était tout à fait réticent à ça. Tu peux ajouter un mot sur Varret là-dessus?
Oui, Varret a essayé de s'opposer, de demander à l'arrêt de ce fichage, mais il a dit que c'était son sentiment qu'il y avait un risque. Et donc, le lien direct avec les listes que les tueurs avaient au premier jour du génocide, ce lien direct n'a pas été établi par des documents, à ma connaissance. L'autre chose qu'on peut dire, effectivement, ce qui a été établi, c'est on a retrouvé par contre des listes datant de 1990, dès le premier offensive du FPR, on a des listes tapées à la machine de la gendarmerie rwandaise, avec les listes de gens arrêtés, il y a des milliers de Tutsis qui ont été arrêtés, et donc là on a leur liste, une par une, effectivement. Sur la question économique, pourquoi la France a fait ça? La France, et essentiellement Mitterrand, est motivée par la géopolitique. Il veut mettre le Rwanda dans la zone d'influence française. C'est vraiment important. C'est vraiment le moteur de base. Hein. On peut parler de ses différentes motivations, de lutter contre l'influence anglo-saxonne en Afrique, et de tout ce que c'est que la zone d'influence française depuis longtemps, depuis toute la colonisation. Mais essentiellement, le motif, c'est ça, et de se dire que si on touche à un pays, si un pays peut être déstabilisé par des rebelles, alors les autres pays ne voudront plus accorder leur confiance à la France. Donc c'est vraiment l'aspect, le Rwanda comme une pièce de la France-Afrique, plutôt que le Rwanda comme un pays particulièrement intéressant. Donc, le fait qu'il y ait eu des conséquences plus extrêmes au Rwanda qu'ailleurs vient pas du fait que la France soit énormément plus investie, mais vient du fait que la France s'est investie comme ailleurs, en décidant d'aller jusqu'au bout, sans s'occuper de ce que faisait le régime, et là, des gens beaucoup plus extrêmes là que dans d'autres dictatures qui déjà ne sont pas tendres avec leur peuple. Mais essentiellement, la motivation économique est très peu visible au Rwanda. Il y a quelques aspects, mais globalement, c'est un pays pas très intéressant. Alors, il y a quand même du point de vue géopolitique, il faut voir aussi ce qu'il a comme particularité, c'est d'être en limite de zone francophone-anglophone, et ça, c'est donc important dans la vision de Mitterrand et de certains de ses officiers. Il y a le fait que c'est la porte d'entrée du Zaïre. Il faut voir que le Zaïre au Congo est avec la forêt équatoriale, il est très peu accessible par l'ouest, hein, ni par le fleuve, ni par la forêt, il est extrêmement accessible, et les richesses de l'est du Zaïre sont accessibles plutôt par l'est et plutôt par le Rwanda, en fait. Le Rwanda est un peu la porte d'entrée du Zaïre. Donc ça, c'est devenu important, et c'est devenu surtout important après, depuis, et encore particulièrement actuellement. À l'époque, ça n'apparaît pas comme quelque chose d'absolument essentiel, le contrôle des mines du Kivu, hein, de cette partie extrêmement géologiquement riche. Mais actuellement, le Rwanda a une grosse importance, plus parce qu'il contrôle que parce qu'il possède réellement sur son sol.
Ce qu'on trouve dans les documents de l'Élysée, ceux qui sont disponibles, parce qu'il y en a sans doute d'autres que nous n'avons pas, c'est quand même une obsession avec les anglo-saxons. Ça, c'est l'obsession de Mitterrand, qui est partagée aussi par ses conseillers, par certains militaires. Ça, c'est quelque chose, un élément important. Et puis, il y a aussi une grande indifférence au sort des Africains. Ça, il faut bien le dire, quoi. On a l'impression très forte que pour Mitterrand, pour Hubert Védrine, qui est son secrétaire général, pour le général Kenno, qui est son chef de l'état-major particulier, pour Bruno Delay, qui est son conseiller Afrique, il s'agit d'une espèce de jeu de stratégie, quoi. Comme s'il manipulait, vous voyez, des pions, sans penser que ces pions sont des êtres de chair et de sang. Et il y a une phrase que Mitterrand aurait prononcée, que rapporte Patrick de Saint-Exupéry, à l'été 94, donc le génocide une fois commis, Mitterrand disant: vous savez, dans ces pays-là, un génocide, c'est pas trop important. Hein? Et il y a une phrase horrible également de Charles Pasqua prononcée à la télévision, peut-être que tu peux la retrouver dans le livre, parce que je le sais là, je ne sais pas par cœur, mais la même chose. Ça a joué, ce facteur-là.
C'est la phrase de Pasqua qui, elle, est donc enregistrée et disponible actuellement. C'est pour les Africains, ces massacres tribaux n'ont pas la même importance que ce qu'ils ont pour nous.
Le fil est un peu court, donc.
Bonjour, ouais. Prenons John du Togo. Et je tiens d'abord à remercier les conférenciers. Et vous touchez des problèmes de fond. En réalité, Mitterrand peut dire qu'il ne s'est pas trompé au Rwanda. Si on suit la politique française depuis de Gaulle hein, en Afrique, il n'y a pas eu de changement. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas se souvenir d'un événement qui s'était produit en Afrique en 1963, à savoir que le président Sylvano Sonipio a été assassiné dans sa résidence par des gendarmes français. Aujourd'hui, de confidence à confidence, on sait les noms. On peut le dire, Georges Métrier, qui avait massacré les Bamileke au Cameroun, et il était aidé par un adjudant appelé POC, dont le nom est maintenant connu. Donc, si on suit la politique de Gaulle jusqu'à Mitterrand, la politique africaine n'a pas varié. Et cette politique en France n'a jamais été contrôlée. N'a jamais été contrôlée par un parlement. Il y a un président qui décide et les autres suivent. Donc si on voit les circonstances dans lesquelles le président Sylvano Sonipio a été assassiné au Togo en 1963, et qu'on voit après ce qui s'est passé au Rwanda, on se dit, bon, au Togo, il y avait effectivement deux camps, mais un camp qui n'était pas armé, et au Rwanda, il y a deux camps, mais l'autre camp est armé, mais ce qui gêne le gouvernement français jusqu'à présent, ce n'est pas qu'il y ait eu génocide au Rwanda. Ce qui gêne le gouvernement français, c'est que ceux contre qui la France est allée et combattre au Rwanda sont actuellement au pouvoir. Ils sont au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est extrêmement gênant. Sinon, le génocide au Rwanda serait passé comme le massacre au Cameroun sous le tapis, c'est tout.
Excusez-moi, je peux répondre ? Je peux répondre et puis je vous donne la parole si vous voulez. Merci beaucoup. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans le livre, la continuité de la politique coloniale puis néocoloniale de la France. Elle est vraiment. Je ne vais pas tout développer, mais sur le fond, vous avez complètement raison. On insiste beaucoup sur le fait que le Rwanda, la politique de la France au Rwanda, est représentative de la France-Afrique et que les gens qui font ça ont l'impression de faire quelque chose de banal. Parce qu'eux considèrent que la politique france-africaine est banale et qu'ils font la même chose que dans d'autres pays. Voilà. Donc oui, de ce point de vue-là, on ne voit pas d'intention génocidaire chez ceux qui soutiennent activement les génocidaires avant, pendant et après. Ils n'ont pas cette intention eux-mêmes de commettre le génocide. On ne la voit pas. Et donc oui, tout à fait. Simplement pour préciser ce que vous dites sur la continuité entre De Gaulle et Mitterrand, il faut savoir que la France-Afrique, essentiellement, elle a été mise en place par Mitterrand, avant même de Gaulle, les bases ont été mises en place par Mitterrand, qui comprend très bien que les indépendances vont devoir se faire et qu'il vaut mieux les contrôler que les laisser libres. Et c'est Mitterrand puis de fer avec la loi cadre, sous la 4e République, qui met tout en place. Quand De Gaulle et Focard arrivent au pouvoir, ils prennent quelque chose qui existe déjà, tout le système est déjà en place. Ils le consolident, ils le mettent. C'est eux. On associe la France-Afrique à De Gaulle et Focard, mais c'est antérieur à eux. Donc c'est vraiment, Mitterrand a fait la politique du guépard, c'est-à-dire il faut que tout change en apparence pour que rien ne change dans la réalité. Et à nouveau, c'est Mitterrand qui sauvera le système une nouvelle fois quand le système est à bout de souffle et qu'il est intenable, indéfendable. En 1990, au moment où Mitterrand est extrêmement contesté, il va avoir le coup de génie de faire le sommet de la Baule, où il va à nouveau donner l'impression que tout change en surface pour que rien ne change. Et il va redonner encore 30 ans de plus au moins de vie à la France-Afrique en donnant un verdict démocratique d'élection aux dictatures qu'il soutient. Donc juste pour dire que Mitterrand, la vraie continuité, elle est là aussi, dans la vie de Mitterrand.
Excusez-moi, C'est aussi votre intervention, c'est aussi la raison de l'existence de Survie, qui, dans la continuité, hélas aussi, continue à vouloir changer la politique africaine de la France, que ce soit en lien avec ce qui s'est passé au Togo, ce qui s'est passé au Rwanda ou dans d'autres pays. On est petit, mais on s'obstine parce qu'effectivement, on fait ce lien complètement politique et historique, bien sûr. Et donc, maintenant, monsieur, peut-être qu'il faut vous rapprocher un peu.
Oui, alors, une observation, une question plus importante. Une mémoire en hommage à Sharon Courtois. Hein. Je me prépare sur Steve Baccarat. À l'époque, en 1994, on avait invité Sharon Courtois dans ces années-là, hein, au Centre culturel La Clé, justement, elle était venue sur la paix des Grands Lacs, avec les temps de lumière auprès des salariés, on voit que le monde du travail devrait s'emparer de ces questions, mais malheureusement, ça continue. Et moi, je suis très ému. Hein. Vous avez évoqué les parties, je ne savais pas qu'elle a disparu l'année dernière. Une question concernant les fondements un petit peu sur comment ils ont, la construction de Tutsi, de Hutu. Est-ce que vous pouvez revenir sur, parce que c'est très important, enfin, la construction de l'ethnicité, comment la colonisation, elle a fabriqué, si vous voulez, dans, jusqu'à ce que les Africains eux-mêmes se sont appropriés cette division ethnique pour pouvoir effectivement faire passer à l'acte, puisque je veux dire, il y a eu les machettes de la Chine, mais les Africains ont tenu les armes, ils les ont quand même perpétrés contre le leur, hein, avec bien sûr la continuité de la politique, la manipulation de la politique de l'État français. Et puis j'ai une question aussi sur le rôle de l'Église. L'Église en Afrique, l'Église en liaison avec l'Europe aussi, qui a questionné, qui a accompagné, qui a justifié ce génocide. Et puis l'extrême continuité aujourd'hui est présente. Vous savez, l'État français, aux Antilles, bon, je ne veux pas aller trop loin, mais il a, avec le chlordécone, un herbicide qui est un poison, l'État français le sait. Il a validé, il sait qu'il y en a pour 5 siècles aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, n'y allez pas, ne mangez pas les produits de mer. Hein. Les sols sont contaminés, vous en creverez, si vous êtes clair et net. Mais c'est comme si. Donc il n'y a pas de problème. S'il doit le refaire, ils le referont. Vous voyez, c'est fait en notre nom, dans notre peuple français, mais ça passe. Macron, bon, voilà. Parce que justement, c'est la vision républicaine qu'on a, la France, pays des droits de l'homme, on est imprégné d'une idéologie, mais qui n'a rien à voir avec notre réalité d'un État capitaliste, qui n'en a rien à foutre. C'est pour nous les croyances, c'est des mythes, mais ces mythologies, elles fonctionnent, elles nous innervent, elles nous donnent le sentiment qu'on est dans un beau pays démocratique, alors qu'ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Donc c'est là-dessus que je voudrais pour que vous puissiez m'éclairer.
Donc sur la construction raciste des catégories Hutu-Tutsi, il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi à ça. Je le dis parce que nous avons utilisé leur travail. Hein. Nous avons utilisé, évidemment, comme toujours, on voit plus loin quand on est sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. Et il y en a ici dans la salle. Donc je vais juste dire donner quelques éléments. Donc les Européens sont, à la fin du 19e siècle, convaincus qu'il y a une hiérarchie des races humaines. Hein, et puis que la race blanche est au sommet de cette hiérarchie. Mais ce cœur de l'Afrique est encore très peu exploré. Et on cherche les sources du Nil. Et on se dit que dans ces sources du Nil, il doit y avoir des populations anciennes. On rêve de ce qui se passe dans ces sources du Nil. Ça fascine le public cultivé en Europe. Et une des théories, c'est que ces Tutsis sont des populations amitiques venues d'Éthiopie, d'Abyssinie, qui, dans des siècles précédents, auraient migré comme ça. Donc des populations apparentées à la race blanche, qui sont arrivés là au milieu de populations africaines bantoues et qui les ont dominés, les Tutsis auraient ainsi dominé les Hutus. Et cette idée, elle est reprise d'une manière scientifique, entre guillemets, par toute cette anthropologie raciale, mais il faut dire raciste, ça n'existe pas, les races. Donc raciale, ça ne veut rien dire, c'est raciste, c'est tout. Qui mesure des nez, des crânes, qui classe comme ça des êtres humains en disant si, ici on a des Tutsis, ici on a des Hutus, ici on a des Toits, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ça dure très longtemps, cette histoire. Je pense encore dans les années 1950 ou 1960, il y a encore des derniers travaux comme ça. Alors on ne va plus dire race. Après le génocide en Europe des Juifs et des Tziganes, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Parce qu'on a vu où ça pouvait mener sur le sol européen de pareilles idées. On dit des ethnies, hein, on va avoir un autre terme, mais c'est le même regard. Et cette idéologie raciste, elle est malheureusement, enfin moi je dis malheureusement, parce que moi, mon métier, moi je suis instituteur, si vous voulez, mais elle passe par l'école. C'est-à-dire, c'est d'abord sont les élites Tutsi ou tout dans les séminaires au Rwanda, hein, c'est là où on est éduqué, et c'est là où cette histoire-là, qui est une histoire complètement mythologique et raciste, est inculquée aux élites. Et ils y croient autant, les Tutsis, que les Hutus. Le blanc, qui a le livre, hein, la science, etc., et donc, ben voilà, ils nous disent que c'est comme ça. Et donc, ça passe par l'école. Alors après, on est dans les années 20, 30, 40. Hein, et ensuite, avec la généralisation de l'enseignement, après l'indépendance, sous la Première République rwandaise, jusqu'en 1973, et puis sous la Seconde République avec Habyarimana, ben on enseigne ça dans les écoles. Voilà. Donc ça devient, c'est comme ça qu'on inculque à une population des idées, sans compter que la société discrimine les Tutsis, soit Habyarimana, avec des quotas, avec... Voilà. On s'imprègne sans même... C'est comme quand on respire, si vous voulez. C'est comme l'air qu'on respire. On s'imprègne de ces idées dans ce Rwanda d'avant le génocide, comme ça. Mais peut-être vous avez des compléments, Marcel, Jean-François, au cas où, ou des erreurs à rectifier, n'hésitez pas.
Non, j'ai pas d'erreur à rectifier. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de votre livre dans un message que je vous ai envoyé il y a ces deux jours. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je l'ai lu en pensant à un autre qui a précédé et que Laurence a cité, celui de Verschal, complicité de génocide, avec un point d'interrogation. Et là, la France et le génocide, il n'y a pas. Donc, on peut véritablement dire que vous êtes plutôt prudent et pédagogue. J'étais content que François dise que assume le caractère pédagogique de cet ouvrage. Je pensais qu'en le disant, vous allez penser que je veux réduire un peu la qualité de l'ouvrage. Je pense que c'est ça qui fait vraiment, véritablement son intérêt. C'est sa qualité pédagogique. Alors, pour revenir à la question qui est posée concernant la racialisation de cette société, ou quand même dans laquelle, je pense que l'un de vous l'a répété, tout le monde parle exactement la même langue, même s'il peut y avoir des intonations, des tons qui ne sont pas les mêmes entre les gens du nord et du sud, du centre, etc. Mais les Rwandais, nous parlons exactement la même langue, nous l'écrivons de la même manière, avec les mêmes lettres, il n'y a pas vraiment les différences, et puis les pratiques religieuses, il n'y a pas une religion des Hutus, une religion des Tutsis, ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus une région des Tutsis, une région des Hutus, ils vivent ensemble. Mieux que cela, au fond, les Rwandais se reconnaissaient, il y avait effectivement ces catégories, il y avait ce qu'on appelait les Hutus et les Tutsis, etc., mais ils se reconnaissaient aussi dans d'autres catégories des clans. Et là, il y en a 16 ou 18 selon les auteurs. Et dans un clan, on retrouve ceux qui ont été appelés Hutus et ceux qui ont été appelés Tutsis. Ils se retrouvent dans les mêmes clans. Donc il y avait plutôt une société plus inclusive, plus harmonieuse que que hiérarchiser en race ou en caste, comment ça s'est devenu plus tard. Alors, tout à l'heure, tu parlais de 19e siècle, en fait. La hiérarchisation, il a commencé beaucoup plus tôt. Anciennement, l'histoire, elle est racontée dans la Bible. C'est la Genèse. Il dit que les fils de Cam, qui sont des Africains, qui sont des nègres, qui auraient peut-être qui seraient intellectuellement moins dotés, qui seraient peut-être un peu plus proches de l'animal que de l'humain. C'est quand même, il y a eu d'abord ça qui a justifié l'esclavage, en quelque sorte. On pouvait les utiliser comme des esclaves parce qu'il fallait leur dire ce qu'il fallait faire. Et même nous ne pouvons pas le penser. Et ce qui se passe au 19e siècle, c'est qu'il va y avoir une idée que peut-être les fils de Cam ne sont pas aussi arriérés que ça. Alors, les Hamites, c'est toujours les fils de Cam, mais ils sont déjà mieux que des nègres. Ils sont porteurs d'une civilisation dans cette zone-là. C'est là que même les pères blancs sont un peu perdus. Ils disent, mais on nous a changé notre Hamite. Notre Hamite, on l'a changé. Il n'est plus le noir, le nègre, qui ne sait rien. C'est plutôt un porteur d'une civilisation qui est un peu, qui a peut-être, qui a acquis de mauvaises habitudes ici, mais il nous ressemble plus ou moins. Et le Tutsi, c'est ce Hamite qui ressemble au blanc, mais qui se trouve une sorte d'intermédiaire entre le blanc et le noir, finalement. Et ce qui va être, d'abord, c'est présenté comme une hypothèse, la ressemblance entre les Tutsis et ces populations de l'Égypte et de l'Éthiopie. Quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Notre-Dame du Nil, il faut le regarder avec beaucoup d'attention, parce que ça ne raconte pas l'histoire, ça raconte un mythe. C'est le récit d'un mythe et d'un mythe qui a fait des ravages. Et le problème, c'est que c'est considéré, c'est d'abord comme une hypothèse, mais cette hypothèse sera utilisée concrètement dans l'administration du Rwanda. On va dire, ben oui, alors il faut ouvrir les écoles aux fils des Tutsis parce qu'ils sont plus aptes à assimiler nos valeurs. Il faut, c'est pas la peine d'instruire les Hutus parce que de toute façon, eux, ils sont plutôt aptes au travail, plus qu'autre chose. Et dans la présentation de cette administration, en fait, on fait une administration au Rwanda, une administration indigène qui est totalement épurée de l'élément Hutu. Parce que traditionnellement, le monarque s'appuie aussi bien sur des Tutsis que sur des Hutus. Il y a des chefs Hutus. Ils sont destitués entre 26 et 30 au nom de la clarification. Une clarification administrative. On crée, il y a le roi et puis les chefferies. Avant, il y avait trois chefs à la tête d'une même chefferie, eh bien, on clarifie, il y a un chef et ce sera un Tutsi. Donc, cette hypothèse se met en pratique, c'est comme si elle était vérifiée. C'est dans les années 50 qu'on va essayer de la fonder, en mesurant les crânes, l'épaisseur des lèvres, etc. Et voilà, c'est en fait l'idée qu'il y aurait des gens venus d'ailleurs, mais aussi utilisés concrètement, qui va faire que effectivement certains Tutsis vont avoir cette pensée qu'ils seraient peut-être supérieurs aux Hutus. Et les Hutus assimilaient certainement une frustration qu'on peut légitimement comprendre. Donc c'est la capitalisation sur la race, sur la différence, mais en politique, qui va créer les clivages, les clivages assez forts. Et où les gens vont se sentir plutôt comme étant les victimes d'une monarchie de Tutsi qui a régné, qui a dominé, parce que c'est cette histoire qui est racontée. Tandis que les autres vont se sentir plutôt victimes de ce rejet. Parce que en 50 ans, c'est quand même ça. On dit, le Rwanda, c'est le pays des Hutus. Et les Tutsis n'ont pas de place. Et s'ils n'ont pas de place au Rwanda, où est-ce qu'ils vont aller? Voilà, je pense que j'ai été trop long, mais... j'ai juste une question à vous deux. Où est-ce qu'on en est de l'accès aux archives? Est-ce que vous avez pu y accéder? J'ai une autre question. Est-ce que vous savez pourquoi l'avocat a choisi de s'installer à Goma? Parce que ça me surprend. D'abord, la zone humanitaire, vous voyez bien où c'est dans le sud-ouest du Rwanda. C'est quand même beaucoup plus loin. Logiquement, il aurait dû s'installer à Bukavu. Parce que même du point de vue de l'infrastructure, c'est beaucoup plus confortable. Goma, c'est une ville avec de petites maisons en paille, etc. Et à Goma, c'est une ville, une coquette ville coloniale, à Bukavu, pardon. Et je me demande pourquoi l'avocat s'est installé à Goma et pas à Bukavu. C'est une curiosité malsaine, je sais pas.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour ces questions. Alors, je n'oublie pas que je dois répondre à la question sur le rôle de l'Église. Et donc là, la question sur l'accès aux archives, sur l'Afourcade à Goma. Et juste une toute petite précision sur l'ethnisation. Il y a le fait que les cartes d'identité, les Belges ont mis sur les cartes d'identité, ils ont fixé le mot Hutu-Tutsi sur les cartes d'identité, ce qui à la fois l'a rendu fixe, l'a rendu transmissible, l'a rendu dominant par rapport à toutes les autres indications sociales comme les clans, etc., et a permis la politique des quotas, effectivement, puisque les gens étaient devenus recensés et fixés. Alors, le rôle de l'Église, moi, qui essaie de répondre, rôle de l'Église...
Tu veux que j'en parle un petit peu.
Du rôle de l'Église
Oui, parce que, franchement, oui. Le rôle de l'Église, c'est que pendant la période coloniale, l'école est entre les mains de l'Église. Donc, c'est elle qui forme les premiers cadres. Et elle enseigne cette mythologie. Pendant la révolution sociale de 59, elle appuie cette thèse, elle appuie la thèse du Païen Hutu qui vise justement à faire du Rwanda le pays des Hutus. C'est que pendant la période coloniale, l'Église a toujours été du côté du pouvoir, elle a défendu les thèses du pouvoir, avant comme après. Et d'où les massacres commis dans les églises, au fond, les gens ne voyaient pas du tout, même les prêtres n'ont pas vu du mal, n'ont pas vu d'inconvénient à le faire. Les prêtres, il a fait démolir l'église sur des Tutsis qui étaient réfugiés dans l'église. Alors il y a juste une différence entre 59 et 60. Dans les années 59, les missionnaires sont restés et ont protégé les Tutsis dans certains lieux. En 94, ils sont tous partis. Donc, laissant les Tutsis entre les mains des tueurs. Et participant au génocide. Après, l'Église a joué un rôle assez considérable dans le développement du discours négationniste. Parce que sortant du Rwanda et arrivant en Europe, sont considérés comme les témoins les plus crédibles. Et donc, leur discours négationniste qui s'est développé notamment au niveau du Vatican et en Belgique, eh bien, il est porté par les missionnaires. Comme le père de Souterre, par exemple, et d'autres, c'est quand même eux qui ont donné crédibilité au discours négationniste.
Merci. Alors, je vais essayer de répondre à l'accès aux archives.
Oui. C'est sur la même chose, sur ça.
Non, je voulais rebondir sur ce que disait Marcel. Juste une petite remarque. D'abord, il faut remercier les deux auteurs pour ce livre qui est non seulement extrêmement clair, mais qui en plus n'est pas cher. C'est une raison supplémentaire de l'acheter, de le faire lire. Et je dois dire aussi que le livre de Jean-Pierre et de Marcel, L'idéologie amitique, maintenant il est en livre de poche, je crois qu'il coûte quelque chose comme 8 euros ou 9 euros. C'est pas cher non plus et ça permet de bien comprendre. Mais je voulais quand même faire une petite remarque sur ces questions Hutu et Tutsi, etc. Parce que ça provoque un sentiment de peur, et peut-être même dans le public ici, on se dit, je ne suis pas un africaniste, je ne suis pas un ethnologue, je ne comprends pas très bien. Il faudrait juste dire deux choses. C'est de l'idéologie, et tout le monde ici sait ce que c'est que l'idéologie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, il y avait déjà l'ennemi intérieur. Le juif, le franc-maçon, le communiste, le gaulliste, le résistant. Dans les années 50, en France, surtout après le début de la guerre d'Algérie, l'ennemi intérieur, c'était le Nord-Africain. Et on sait ce qui se passait avec la police française, comme elle faisait la traque des Juifs, elle a fait la traque du Nord-Africain. Et chaque fois que je passe, moi, en métro, devant le métro Charonne, je repense à mon initiation en politique, cette grande manifestation après les violences policières qui avaient fait 9 morts au métro Charonne. Donc, on n'a pas besoin d'être africaniste ou d'être ethnologue pour comprendre. Il faut comprendre ce que c'est qu'un Rwandais. Un Rwandais, c'est un être vraiment étrange. La maman voudrait que les enfants aillent à l'école et fassent de bonnes études. Le papa s'occupe d'avoir une meilleure maison. S'il marche à pied, il aimerait bien avoir un vélo. Quand il a la chance d'avoir un vélo, il rêve d'avoir une moto. Et motocycliste, il pense qu'un jour, il aura une voiture. Quand on est un homme, on comprend ce qui se passe au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Je tenais à le dire parce que quand on aborde ces questions-là, ethnographiques, ethnologiques et compagnie, et raciales, on fait peur. Il faut comprendre qu'on a affaire à des hommes et des femmes comme nous, et que si on est des hommes et des femmes doués d'un peu d'entendement et d'empathie, on comprend très bien ce qui se passe au Rwanda, parce que ça peut se passer partout. C'est juste ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long.
Merci beaucoup. Alors, l'état d'accès aux archives. À la fois sur le Rwanda, c'est une des opérations extérieures où il y a eu le plus de polémiques, le plus d'enquêtes parlementaires, journalistiques, judiciaires, et c'est là où il y a le plus d'archives qui ont pu être publiées pour une raison ou pour une autre. Et à la fois, c'est un des sujets les plus sensibles où elles sont le plus verrouillées, je dirais. L'état actuel, on va dire, dans l'actualité, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a eu la... il y a trois choses en vrai. La promesse de François Hollande en 2015 d'ouvrir tout aux chercheurs, avant la fin 2016, qui a été très partiellement suivie des faits et essentiellement a été bloquée par différents verrous que je peux expliquer et qui ont fait qu'il y a eu des plaintes... En particulier, j'ai été mêlé sur, devant les tribunaux administratifs français jusqu'au Conseil constitutionnel et qui sont maintenant en attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme donc sur cette question des secrets qui protègent les gouvernants. La deuxième chose, c'est l'utilisation du secret défense en France, qui est une utilisation massive pour des choses qui n'ont rien à voir avec la défense nationale, mais qui ont un rapport avec la protection des décisions gouvernementales face à la curiosité des administrés. Et donc, Survie fait partie d'un collectif qui s'appelle Secret Défense, un enjeu démocratique, où il y a un grand nombre d'affaires judiciaires qui sont regroupées, qui se heurtent toutes au problème de la classification de Secret Défense. Il y a parmi nous des affaires france-africaines, comme l'affaire Borel, l'affaire Ben Barka, et d'autres qui n'ont rien à voir, comme le chalutier Bugalet Braise, ou d'autres, ou la caravelle Nice Ajaccio. Et donc il y a toute une variété d'affaires, parce que ça peut arriver à n'importe qui, et qui se heurtent d'une manière ou d'une autre au Secret Défense. Et là, il y a eu une évolution plus favorable en 2008 avec une loi qui essayait de rendre un peu l'accès aux archives un peu organisé, un peu transparent. Et rapidement, en 2011, une fermeture par une instruction ministérielle qui s'est mise au-dessus de la loi et qui a rendu les choses vraiment difficiles à consulter et qui a rendu la situation problématique. Et il y a quelques semaines, donc fin 2019, une évolution, alors là, vraiment catastrophique, qui fait qu'en gros, l'accès même aux archives de la Seconde Guerre mondiale, je ne vous parle pas du Rwanda, la Seconde Guerre mondiale, qui avait de hautes luttes en 2015, était ouverte par une grosse pression des chercheurs, en disant qu'en 2015, après 70 ans, il était temps d'ouvrir les archives de la Seconde Guerre mondiale, que quand même, on pouvait peut-être, que les tampons secrets mis par la Gestapo, on pouvait peut-être ne plus en tenir compte. Je suis sérieux, hein. Je parle de gens qui se sont fait opposer la non-consultation des documents parce qu'il était marqué secret par la Gestapo. Donc, il y a eu une ouverture en 2015, et là, même ces archives-là, et je ne vous parle pas des nôtres, se retrouvent verrouillées. Et là, il y a une situation de blocage complet. Et si vous avez vu dans les dernières semaines des pétitions dans les journaux, des articles d'historiens internationaux, qui mettent des archives, des gens qui pouvaient consulter les archives il y a quelques semaines ne peuvent plus maintenant. Les mêmes. Voilà. Les archives de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, nous on est en plein là-dedans, dans cette tourmente-là, et donc c'est loin d'être stabilisé, et voilà, il y a une interpellation des gouvernements, là il y a quelques jours, voilà, à suivre.
Alors pourquoi le général Lafourcade, qui commande donc l'opération turquoise, installe son poste de commandement interarmé du théâtre, son PCIAT, à Goma, Je pense que c'est parce qu'il y a un aéroport qui est suffisant pour que la logistique débarque. Et je pense que l'aérodrome de Bukavu n'aurait pas permis. Mais je n'étais pas, Marcel, je suis désolé, je n'étais pas dans l'état-major de Turquoise quand ils ont pris la décision. Je pense que ça, c'était une chose. Une autre raison, sans doute, c'est qu'il y a, pas très loin de Goma, à l'autre côté, c'est Gisenyi. Et dans ce coin-là, il y a des camps d'entraînement militaire où, sans doute, il y a encore des Français. Parce que très vite, dès le début de l'opération Turquoise, il y a comme ça... Déjà, il faut que je laisse François en parler, parce que Turquoise, c'était son... Tu vas me corriger si je dis des bêtises. Vers le camp de Vukamira, on y va très vite, là-bas. Et puis même Gisenyi aussi, à un moment donné. Donc, voilà. Il y a différents enjeux. Je pense qu'il voulait être à la fois présent à la fois du côté du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Bonsoir. En fait, du coup, vous avez pas parlé du PCC. Vous pouvez nous en parler plus longuement, s'il vous plaît.
Merci pour la question. Donc, Bisesero, c'est à l'ouest du Rwanda, pas très loin du lac Kivu, pas très loin de Kibuye. Bisesero, c'est un endroit où les Tutsis, en 59, dans les années 60, en 73, avaient résisté aux attaques. Ils étaient connus, ces éleveurs de Bisesero, sont des hauteurs, on dit les collines, mais ce sont des montagnes qui surplombent le lac Kivu. Et donc à Bisesero, en 94, vont se rassembler des dizaines de milliers de Tutsis, probablement 50 000, si l'on suit l'enquête de Kamraitz, et qui vont résister tant qu'ils le peuvent. Il y aura une très forte attaque le 13 mai, le 14 mai 1994, avec des tueurs qui viennent d'un peu partout. On rassemble des miliciens et aussi des militaires pour les attaquer. Eux se défendent avec on raconte dans le livre, il y a le récit d'un des résistants du CSR, comment ils se défendent avec des pierres. Et puis, ils sont vaincus, beaucoup, beaucoup meurent ce jour-là, et puis ceux qui restent, quelques milliers, sont ensuite pourchassés à partir de la mi-mai sur ces hauteurs de Bisesero. Ils se cachent comme ils peuvent, là où ils peuvent. Et lorsque les militaires français arrivent de l'opération Turquoise, ils arrivent, il y a des hélicoptères qui atterrissent à Kibuye, je ne sais plus, le 24, le 25 juin, je ne sais plus exactement, avec des commandos parachutistes de l'air. Un petit détachement sous les ordres d'un officier, lieutenant-colonel Duval. Et cet officier, on lui dit, ça continue là-haut. Il est chez des religieuses à Kibuye, ça continue le génocide, ça continue. Il décide donc de monter à Bisesero, accompagné de 3 journalistes, français, il a un petit détachement, ils sont une dizaine, et il est arrêté par Eric Nzabimana, qui est lui un Tutsi francophone, un instituteur, donc il parle bien le français, qui se met au bord de la route, qui arrête ce petit convoi de militaires français pour leur expliquer ce qui se passe. Vite, Eric est rejoint par une centaine de rescapés qui sortent de leur cachette, qui viennent, qui montrent aux Français qu'ils ont bien été attaqués, qu'il y a des blessés, avec des blessures toutes fraîches, qu'il y a des morts partout, là, dès qu'on quitte la route et qu'on va un peu dans la brousse. Et Duval, qui n'a pas beaucoup d'hommes, qui est touché par ce qu'il voit, d'après Saint-Exupéry qui était là, malgré les supplications de ces Tutsis, Duval leur dit on va revenir dans 2-3 jours, on va revenir. Mais il les laisse là, ce qui est une chose peu compréhensible, je dirais, parce que pas très loin de Bisesero, il y a une autre commune. Alors il faut imaginer un habitat dispersé, il y a un petit centre commercial, mais c'est un habitat dispersé sur ces hauteurs, mais il y a un endroit qui s'appelle Guichita, puis à Guichita, il y a 40 commandos marines, sous les ordres d'un officier qui s'appelle Marin Gillier. Et donc pourquoi Duval ne les emmène pas là-bas, il y a quelques heures de marche, peut-être 2 heures, pourquoi il ne les emmène pas pour les mettre sous la protection des Français, au moins cette centaine-là, ça reste aujourd'hui, ça reste un mystère pour moi, pour nous, pas aujourd'hui. En tout cas, il leur dit donc, on va revenir, et il redescend à Kibouillé. Il redescend à Kibouillé, Saint-Exupéry dit que les militaires sont sous le choc. La dizaine de commandos parachutistes de l'air qui sont là sont sous le choc. À Kibouillé, Duval rencontre à son supérieur le colonel Rosier, qui est le chef du détachement des forces spéciales françaises de Turquoise, et lui explique la situation au téléphone, par fax, en disant qu'il y a une situation de dénuement extrême et que si on ne fait rien, il y a une extermination qui va continuer. Rien ne se passe. Le lendemain, on ne donne pas l'ordre à Duval, Rosier ne donne pas l'ordre à Duval de remonter à Bicécéro. Et puis, 3 jours vont s'écouler. Pendant ces 3 jours, les massacres de ces Tutsis de Bicécéro, la traque va continuer, s'accélérer. Il y a des témoignages de miliciens et de rescapés et d'habitants de Guichita qui disent que des miliciens sont venus, les miliciens d'un chef milicien qui, lui, était tout au sud du Rwanda, qui serait venu en bus avec une centaine de miliciens en remontant toute la zone turquoise jusqu'à Bicécéro. Je dis, ce sont des témoignages parce qu'il y a une instruction qui est ouverte, qui va se clore bientôt par un non-lieu, que malgré les demandes des parties civiles, il y a des rescapés de Bicécéro qui ont porté plainte en 2005 et des associations de non-survie qui se sont constituées parties civiles à leur côté. Et les magistrats instructeurs du pôle crime contre l'humanité et crimes et délits de guerre, on dit pôle génocide, n'ont pas cherché à savoir si effectivement les militaires français présents à Guichita avaient vu venir une centaine de miliciens et les avaient laissés monter jusqu'à Bicécéro pour terminer le travail. En tout cas, c'est le 30 juin seulement, alors que l'officier Marin Gillier, qui est à Guichita, a comme instruction non pas d'aller à Bicécéro, mais d'aller plus loin que Bicécéro, pour rencontrer un prêtre français, pour lui demander des renseignements. C'est le 30 juin que le détachement de queue de son convoi, des militaires du 13e régiment de dragons parachutistes et des gendarmes, s'arrêtent, sont interpellés et s'arrêtent, se rendent compte de la situation, et eux, par radio, préviennent Marin Gillier que là, il y a des Tutsis, quoi. Ils sont en train d'être tués. Les tueurs, on les voit. Duval les voyait aussi, le 27. Et donc, Gillier revient et le sauvetage est organisé à ce moment-là. Donc, Bicécéro, c'est ces 3 jours. Que dire de plus? Sauf qu'on perd. Voilà, on perd, on essaie de poursuivre une enquête, et puis on a en face de nous une justice qui n'ira pas voir là où ça peut faire mal. Voilà.
La justice a refusé d'aller interroger les responsables parisiens en disant que les militaires français étaient autonomes sur le terrain, ce qui est absurde. Même quand on écoute ce que disent les militaires eux-mêmes, puisque ni les militaires sur le terrain, ni la hiérarchie parisienne ne dit ça. Ils disent tous que l'armée française a été très contrôlée par des ordres venus de Paris. Tout le monde constate que le fonctionnement était extrêmement efficace et professionnel. Donc la question de la décision de Bicécéro, nous on demande qu'on aille voir effectivement comment ça s'est passé à Paris. La justice clôt, alors que pour nous c'est emblématique de la complicité de génocide de la France. Alors pourquoi on parle de complicité de génocide? Parce qu'on parle de action effective sur le crime commis, liée à une action positive et en connaissance de cause de ce qui se passait. C'est ces trois éléments-là qui constituent normalement une complicité et qui pour nous sont d'un point de vue politique évidemment une complicité, et donc on demande qu'il y ait une traduction judiciaire.
Merci pour vos interventions. J'avais deux questions. La première, c'est concernant les annonces qui ont été faites lors de la 25e commémoration du génocide, donc il y a bientôt un an, par Emmanuel Macron. Donc, si je me souviens bien, il y avait notamment trois choses qui étaient la mise en place d'une journée officielle de commémoration du génocide des Tutsis, l'inscription de l'histoire du génocide au sein des programmes scolaires français, et la mise en place d'une commission d'historiens. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est bientôt un an après de la mise en application concrète de ces trois choses-là? Et ma deuxième question, c'est autour de la... Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur en quoi pour vous cette histoire-là, elle est toujours extrêmement actuelle et un enjeu autour du fonctionnement de notre démocratie?
Donc sur les annonces du président Macron. Donc la journée officielle de commémoration du génocide des Tutsis, ça c'est un grand événement, je trouve. Le négationnisme est tellement virulent dans notre pays. Le négationnisme du génocide des Tutsis est tellement fort que d'avoir cette fois le chef de l'État qui dit « Voilà, nous allons commémorer le génocide des Tutsis du Rwanda, pas le génocide rwandais, parce qu'on nous dit qu'il y a eu des morts des deux côtés, le génocide rwandais. Voilà. Bon. Le génocide des Tutsis, c'est eux qui ont été visés comme population à exterminer. Ça, c'est un événement très important, cette journée officielle. Après, en ce qui concerne les programmes scolaires, je ne suis pas au courant, peut-être François sait mieux, je ne sais pas juste comment ont changé les programmes d'histoire. On a un adhérent de survie qui est prof d'histoire en lycée, il pourrait nous dire plus, mais il n'est pas là ce soir. Sur la commission d'historiens, donc Vincent Duclerc a été nommé président de cette commission d'historiens. La commission a été contestée lorsqu'on a connu sa composition. Il y a eu une pétition qui a rassemblé plusieurs centaines de signatures d'historiens en disant « Il n'y a pas de spécialiste du Rwanda. Il y a des historiens, il y a aussi un juriste, M. Vigouroux, qui est un proche d'Hubert Védrine, et puis il y a une historienne militaire qui est proche d'un historien militaire qui travaille au ministère de la Défense, qui donne des cours, je ne sais plus dans quelles institutions militaires. Bon. Alors, il y a aussi des gens. Il y avait Annette Vivorka qui a quitté, Raymond Kevorkian, grand spécialiste du génocide arménien. Donc il y a des gens qui sont extrêmement estimables. Que va donner le travail de cette commission? Nous verrons bien. Il y a un rapport d'étape qui doit apparaître bientôt, là, d'ici quelques semaines. On saura un peu ce qu'ils ont fait. Et puis le rapport devrait être rendu en 2021, au printemps 2021. Vincent Duclerc s'est engagé, la commission est habilitée secret défense. La classification la plus faible d'un document, c'est confidentiel défense. Ensuite, vous avez secret défense, vous avez très secret défense. Je ne sais pas s'ils ont été habilités très secret défense, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait des ordres oraux qui ne passaient pas par des écrits? Moi, j'ai une fois discuté avec un sous-officier supérieur, comme on dit, un adjudant-chef, qui était chef de section au Rwanda et qui était au Rwanda, et qui, lui, était habilité très secret défense, et lui m'a dit qu'il y avait des ordres oraux, chose qu'il n'y aura jamais d'écrit, on ne trouvera jamais de traces. Alors, je ne sais pas du tout, je crois que M. Duclerc est de bonne foi, je crois qu'il veut faire son travail. Quelles archives ont été mises à sa disposition? Est-ce qu'elles ont été triées avant? On peut se poser la question. Il a accès à l'ensemble des archives, président de la République, Premier ministre, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, ministère de la Coopération, les services secrets, DGSE, Direction de l'enseignement militaire, il a accès à tout. d'après sa lettre de mission. Maintenant, ayant accès à tout, c'est un énorme travail. C'est des centaines de milliers de pages à dépouiller. Des gens qui, a priori, n'ont pas de compétences initiales, donc ils doivent se former en même temps qu'ils découvrent une masse d'archives pareilles. Ça, voilà, il y a ces questions qu'on peut se poser. Hein. Quelle que soit la valeur et l'engagement des membres de cette commission, valeur et engagement qui sont inégaux, comme je l'ai dit, M. Vigouroux n'a certainement pas le même état d'esprit que pourrait avoir M. Kevorkian. Je ne connais ni l'un ni l'autre, hein, mais j'imagine simplement que ce n'est pas la même chose quand on a été un ministre du gouvernement Lionel Jospin. Monsieur Vigouroux était ministre, ou il était, non, il était, je ne sais plus, un cabinet d'un ministre, vous voyez, quand on a été dans la politique, quand on a eu l'histoire du génocide arménien. On verra ce qui sort de cette commission Duclair. L'intérêt, c'est quand même que des documents seront publiés, d'après ce qu'a dit Vincent Duclair, donc on verra en 2021, et il a dit que les documents utilisés seraient rendus publics. On verra. Pour moi, un test, c'est ce document dont a parlé Patrick de Saint-Exupéry dans la rue 21, de juin 2017, sauf erreur, où, parce que François Hollande, ça a été dit par François Evaner, avait missionné des hauts fonctionnaires pour faire le tri des archives de l'Élysée. Selon Patrick de Saint-Exupéry, l'un de ses hauts fonctionnaires s'est confié à des proches en disant qu'il avait trouvé des choses. Il avait notamment trouvé des lettres de militaires français de l'opération turquoise protestant contre l'ordre qui leur était donné de réarmer les forces armées rwandaises passées au Zaïre. Des militaires, vous voyez, des officiers français qui disent « on ne veut pas ». Et il y avait même certains qui disaient vouloir utiliser leur droit de retrait, ne pas vouloir obéir à un ordre manifestement illégal, pour ceux qui ont fait. Ici encore, il y a peut-être des gens, enfin moi je me rappelle quand j'ai fait mon service militaire, c'est un article de règlement militaire, on avait ça, et on ne peut pas obéir à un ordre manifestement illégal. Bon. Alors, on va voir, parce que sur un des documents qui relatait ces militaires disant qu'ils ne voulaient pas obéir à cet ordre, il y avait une mention manuscrite de la main d'Hubert Védrine disant « il faut respecter les directives données et réarmer les Hutus ». Si M. Duclair a accès à ce document et le publie, je croirais alors que cette commission a fait du bon travail. Je m'exprime en nom personnel, pas au nom de Cyril. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, hein.
Non, mais ça va faire la transition avec l'autre question qui est sur les enjeux actuels. Je voudrais vraiment dire que, et là, on essaie d'en parler dans le livre, c'est vraiment une de nos motivations. Hein. C'est le fait, qu'est-ce qu'on peut dire de la structure de nos institutions et de nos imaginaires aussi, puisque c'est ce qui a rendu ça possible. C'est la conjonction entre le fait que Mitterrand a pu prendre plein de décisions avec quelques décideurs, et malgré les très nombreuses alertes, ou demande de changer la politique qu'il a reçue de plein de niveaux différents. Donc ça, c'est la structure des institutions de la Ve République. Et l'autre chose, c'est l'imaginaire encore colonial qui colonise nos cerveaux, en fait, qui fait que l'impression que la France doit être une grande puissance et qu'elle doit avoir une grande place dans le monde à tout prix. Et donc c'est ça qui fait que la justice... les médias, etc., gardent une sorte de déférence envers cette primauté du président de la République. Ça n'a pas changé. Fondamentalement, Mitterrand était très fort pour ça. Mais les structures, et à la fois de notre imaginaire et des institutions, ne sont pas beaucoup changées. Le président de la République est encore plus intouchable qu'avant, du point de vue des institutions. Il y a encore moins de cohabitation et d'opposition gouvernementale ou parlementaire à l'action du président de la République, donc ça, ça s'est pas amélioré. Il y a beaucoup plus l'impunité a été officialisée aussi pour les forces spéciales. Le rôle des forces spéciales, qui sont donc beaucoup moins contrôlées, qui ne sont pas sous contrôle du ministère de la Défense, mais directement sous contrôle de l'Élysée et de l'État-major, le rôle s'est renforcé encore depuis. Il y a beaucoup de clignotants qui sont passés encore plus au rouge. L'armée n'a pas
tirer les leçons, en tout cas pas dans le sens qu'on pensait, c'est-à-dire qu'elle a plutôt, elle s'est plutôt réjouie des doctrines qui ont bien marché dans son sens au mandat, c'est-à-dire le rôle des forces spéciales, le rôle des forces des mercenaires, le rôle de la doctrine contre-insurrectionnelle, tout ce qui a été mis en place au Rwanda et qui, pour nous, est la cause du fait que militairement, le soutien français a eu un effet sur le crime commis. Tout ça, l'armée française a plutôt tiré les leçons de façon très positive, en voulant les encourager encore. Et puis, dernier point, je pense que le plus marquant, c'est de dire que Macron a été interviewé 2 jours avant son élection par un journaliste de Jeune Afrique qui lui demande quelle va être sa politique africaine. Et Macron répond nous sommes très attachés à la stabilité des États, même quand nous sommes face à des régimes dont nous ne partageons pas les valeurs. Et ça, c'est mot pour mot le vocabulaire de Mitterrand. La stabilité des États, c'est la chose au nom de laquelle Mitterrand et son ami Aung San sont intervenus au Rwanda, sont intervenus en Bosnie. De la même manière, avec des conséquences comparables. Et, et de façon générale, le soutien aux dictatures africaines se justifie par exemple la stabilité, même quand, par exemple, on le voit dans le cas du Rwanda ou dans la Bosnie, le résultat est une déstabilisation majeure de toute la région, bien au-delà de la zone concernée, pour des décennies. Puisqu'on parle dans les deux cas de plus de 25 ans de déstabilisation. Mais le mot stabilité qui veut dire en fait fixation d'un régime qui nous est fidèle, hein, c'est ça que ça veut dire. Eh bien ça, c'est vraiment un maître mot du vocabulaire mitterrandien et de ses successeurs que Macron a repris entièrement à son compte.
Sauf s'il y a encore une question dans la salle, en fait, ça me semble être le mot de la fin.
J'ai pas une question. On m'a
demandé. Alors, si t'as pas de question, il y a
J'avais quelques questions.
Derrière, oui.
D'accord. Alors, si vous me permettez, quand tu parles des institutions, ce que je trouve de très bien dans le livre, c'est de montrer qu'au fond, les institutions, tout a fonctionné normalement. Mais ça n'a pas infléchi les choix. Ça n'a pas infléchi les choix. Savoir que le régime de Kigali et se comporter comme il se comportait, ça n'a pas infléchi les choix. Et cela jusque dans l'opération turquoise. On a su que les Tutsis étaient tués au sommet, mais il fallait cette république Hutu. Cette vision, ça n'a pas infléchi. Je pense que c'est vraiment ça que je trouvais de très bien démontré finalement dans votre livre. Et pour ça, je vous remercie.
Oui, vous ne pourrez pas sans doute répondre ce soir, mais je voulais savoir ce qu'il était possible de faire justement en tant que citoyen. Enfin, maintenant, avec les gilets jaunes, avec tout ça, on sent bien que les citoyens ont envie de reprendre un petit peu les choses en main. Et ça peut commencer par des choses toutes petites. Moi, je sais que, par exemple, ça m'agace, c'est quand on dit « la France décide, la France fait ci », et on assimile les Français et la France. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de possible à votre...
Rejoignez-nous à sur. Oui, ça c'est autre chose. Ensuite, sur cette histoire, en 2009, j'ai donc participé à un ouvrage qui s'appelait « La complicité de la France dans le génocide des Tutsis ». Le titre a été discuté. Et moi, je tenais à de la France parce que je dis, si ce pays se prétend une démocratie, alors nous sommes comptables des décisions de nos dirigeants. Et là, comme vous voyez, nous avons changé. Nous avons écrit l'État français, pas la France. Ça ne signifie pas que ce devoir d'être des citoyens démocratiques est maintenant terminé, que nous en sommes exonérés ou déchargés. C'est pas ça. Mais c'est quand même de voir... Moi, j'ai découvert ça, en tout cas. J'ai découvert... la justice de la raison d'État, j'ai dit un peu tout à l'heure, et j'ai découvert vraiment la puissance de ce que c'était l'État dans ce pays. Et un jour, c'est pas la peine, ça n'a pas à voir avec l'histoire, mais je me suis dit un jour, la France est un pays occupé par son État. Ça m'est venu comme ça, je descendais du bus chez moi, là où j'habite. Parce qu'on veut faire un grand contournement ouest autour de Strasbourg, et il y a des gens donc, qui s'étaient bagarrés pour qu'on ne rase pas un bois, etc., Il y a eu beaucoup de luttes, ça fait très longtemps cette histoire. Et même des élus avaient été molestés par les CRS. J'avais appris ça, puis je réfléchissais à ça, puis je revenais chez moi en bus, puis je descends du bus et je me dis, la France, c'est un pays occupé par son État. Voilà, juste pour... C'est pour ça qu'on a mis l'État pour ça.
Est-ce que je peux compléter ou pas? Je voudrais dire que la politique, c'est beaucoup du rapport de force. Tous ceux qui ont fait de la politique ou essayé d'avoir une action quelconque, qui ont été piliers au rugby, comprennent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout ou rien. C'est on pousse, chacun pousse d'un côté de l'autre. Et y a un moment où ça va un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. C'est en permanence, c'est un équilibre dynamique qui bouge petit à petit. Nous, on est face à des choses très lourdes face à nous. Et on le voit, le négationnisme. Ceux qui nient le génocide de Tutsi ou ceux qui nient le rôle de l'État français ont encore un grand nombre de leviers, même s'ils ne tiennent pas, même s'ils ont, ils viennent de perdre quelque chose au niveau de la reconnaissance du génocide des Tutsi lui-même. La reconnaissance du rôle de la France, on en est loin encore, même si on se bat pour ça. Et donc tout est dans le rapport de force. On sent que ça se grignote. On voit de temps en temps des médias, au sein de chaque média, il y a ce rapport de force aussi, mais il y en a, de temps en temps, un qui bascule plus d'un côté ou de l'autre, etc. On voit des évolutions. Et on voit le combat, à la longue, le combat de survie, défaite après défaite, construit des victoires. Et c'est usant. Et à la fois, si on regarde sur la longue durée, c'est quand même aussi très gratifiant. Et je dirais donc le fait d'avoir un combat collectif, c'est important. Je ne voudrais surtout pas dire que survie est seule dedans. Voilà. C'est un domaine où il y a beaucoup de gens, dont certains dans la salle que je remercie, qui travaillent en lien les uns avec les autres, qui ont leur propre énergie, qui ont leur propre méthode, et survie fait partie, disons, du rapport de force, contribue à le construire, et donc vous avez beaucoup de moyens, pas seulement rejoignant survie, de contribuer à ça, mais par contre, je pense que contribuer à ce rapport de force, à son niveau, c'est vraiment important, et ça peut être par du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des informations, ça peut être des idées, il y a beaucoup de manières de contribuer, chacun à sa façon, et je pense qu'il y a une grande variété, heureusement, c'est pas monolithique du tout. Et donc voilà, je voudrais donc dire un grand, grand merci à tous les gens qui travaillent dans cette direction-là, avec leurs opinions, avec leurs motivations, et qu'on ne peut pas tous citer, mais sur lesquels on s'est énormément appuyé. Je ne voudrais surtout pas présenter notre travail comme un travail individuel.
Donc la dernière question de ça.
Moi je voulais juste. J'ai pas lu le livre, mais rebondir complètement avec ce que vous disiez, c'est-à-dire je pense que quand on est beaucoup. Quand on lit beaucoup sur le génocide des Tutsis du Rwanda et sur la relation de l'État, enfin de notre pays, à ce drame abominable, je pense qu'on se pose forcément des questions sur le fonctionnement des institutions, sur la croyance qu'on peut avoir aux institutions, enfin dans les institutions, sur notre rapport à elles en tout cas. Donc ça, là-dessus, je vous rejoins complètement. Je trouve ça assez beau, l'image. L'État qui occuperait, enfin, qui une espèce de squatter. Je voulais vous poser une autre question. Il y a deux sujets sur lesquels je trouve peu d'informations et que je trouve qui me semblent passionnants par rapport à la question de l'État français, enfin, de la relation, de l'agissement de l'État français ou de la France. Par rapport au génocide du Rwanda, c'est d'une part la question de la cartographie, c'est-à-dire pour rebondir sur ce que demandait M. Kanganda, c'est-à-dire sur pourquoi à Goma, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité, est-ce qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui d'arriver à mettre en place une espèce de cartographie au jour le jour de ce qui a été turquoise? Pas tout à fait dans ce métier-là, mais quand on voit les choses visuellement, on les voit différemment. Je trouve tellement d'informations qui sont toujours cartographiées, parce que voilà, on parle d'un pays de colline, on parle d'un pays où on ne voit pas forcément loin, parce que c'est vallonné, c'était. Et ma deuxième question, et un autre sujet sur lequel c'est la relation entre cette histoire cette histoire au jour le jour et ce qui s'est passé à l'ONU et les résolutions de l'ONU. Et moi, je me suis toujours, il y a toujours un truc qui, pour moi, m'interpelle, que je trouve absolument incroyable, c'est que finalement, je crois, le FPR arrive à prendre Kigali réellement. Bon, alors, la date, je crois que c'est le 4 juillet, hein, c'est ça. Et finalement, je veux dire, il y a un État au monde, le 4 juillet, un petit peu avant le 4 juillet, qui est militairement capable d'empêcher le FPR de prendre le pouvoir à Kigali. Et cet État, c'est quand même la France. Et du coup, je trouve qu'il y a une concordance de dates, hein, avec notamment la résolution du 1er juillet, voilà, sur la qualification de génocide, qui pose tout un tas de questions. Voilà.
Alors, je vais essayer de répondre, et puis je pense qu'on pourra conclure là-dessus, si ça va. Sur la cartographie, c'est vraiment une très très bonne idée. Nous, j'avais essayé dans mon bouquin de 2014, avec l'aide d'un graphiste, on avait travaillé ensemble assez longuement sur l'avancée du front du FPR pour essayer de visualiser les choses, visualiser Bicécéro, etc. On l'a repris un petit peu dans ce livre-là. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un travail de fond à faire. C'est un vrai travail de source. La raison pour laquelle on n'a pas fait plus, c'est que on sort un petit peu du rôle de la France directement, enfin du cœur de notre travail à nous, on ne peut pas tout faire. Voilà. Mais dans le travail des historiens du génocide, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Sur l'histoire au jour le jour et l'ONU, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. L'ONU a un rôle très grand, on peut en parler beaucoup. La France a un rôle à l'ONU. Le fait que le Rwanda ait été autorisé à siéger au Conseil de sécurité, donc dans les 15 pays qui ont un rôle important, alors qu'il était sous tutelle des Nations Unies et qu'il avait des casques bleus donc, dès le 1er janvier, c'est une aberration. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui ait sa propre tutelle. Enfin, quelqu'un qui a son curatelle ne peut pas être son curateur. Quand après le coup d'État, vous avez le gouvernement génocidaire qui envoie son représentant à l'ONU, c'est encore plus inacceptable. Et là, on peut se demander par quel soutien c'était possible. Il y a des membres du Conseil de sécurité qui ont essayé de protester et qui n'ont pas été entendus. Donc on peut supposer que la France s'est battue pour garder le représentant du Rwanda et là, et ça a été un rôle important dans la paralysie de l'ONU et du Conseil de sécurité. Hein. C'est vraiment important. Et d'autant, on le voit d'autant plus que du jour où la France a considéré que le gouvernement n'était plus défendable, c'est-à-dire le 17 juillet, elle a demandé au représentant de partir, il est parti tout de suite. Donc ça, on a la trace. Ça, on a un document, par contre, qui le dit. Donc ça, c'est, on voit l'influence française dans ce rôle. Mais sinon, c'est tout un domaine d'étude aussi, l'ONU. Voilà.
Ma question, c'était, alors, le 1er juillet, je crois qu'il y a une résolution qui est proposée par la France, en fait, qui s'intéressait à la question de la qualification du génocide. En fait, il y a une proposition qui vient plus ou moins de la France, je crois, du représentant français, d'envoyer une mission parce qu'on n'est pas sûr, on parle d'actes de génocide, mais bon, voilà. Et en fait, l'envoi de cette mission, ça recule en gros la question de la qualification de 2 mois. Et 2 mois, c'est pile le temps que va durer.
Effectivement, la qualification de génocide était vraiment reconnue par l'ONU après la fin du génocide.
Et donc, c'est là où le FAGE a quand même une concordance de date qui est énorme en soi. Et donc, quand on regarde les textes de résolution, et en gros, ma question, c'est, la France a le soutien quasi unanime pour cette résolution du 1er juillet, qu'est-ce qu'elle a donné en échange? Parce qu'elle a forcément donné quelque chose en échange. C'est-à-dire, les choses, je ne pense pas, en l'occurrence, si on parle du vote américain, je ne crois pas que les États-Unis soient forcément favorables de fait pour voter cette résolution. Ils ont bien, il y a eu un gage, il y a eu quelque chose. C'est le sens de ma question.
J'ai pas d'informations particulières à donner là-dessus.
La dernière question.
Madame, madame a une question.
Non.
Alors, je vais essayer de parler calmement.
Dans le micro.
Je pense que je pourrais me faire entendre de tout le monde. Non, j'aime pas les micros, excusez-moi. Ce qui m'a fait réagir, en fait, c'est la notion d'État français. L'État français, c'est Vichy.
Oui. J'ai eu cette remarque, effectivement. Quelqu'un m'a demandé pourquoi. Est-ce que vous faites référence à l'État français en parlant de... À Vichy en parlant de l'État français?
Non, mais la réponse est non. Ce n'est pas une critique à votre égard, mais c'est... Non, ça
une... On m'a posé la question, la connotation de l'État français. Il existe encore un État français. C'est pas parce que notre officiellement s'appelle République française et que sous Vichy s'appelait État français. Mais l'État français existe toujours. On a toujours des communes françaises, des départements français, des régions françaises et un État français. Là, on a un chef de l'État. Et là, en l'occurrence, comme disait Raphaël, la structure dont on parle, effectivement, soit on dit la France, qui couvre tout, et soit on parle de l'État français, c'est-à-dire ce niveau d'organisation et ces institutions qui vont avec. Parce que on a une justice d'État. On n'a pas une justice régionale ou départementale, on a une justice d'État. On a une... Mais ceci dit, la continuité de l'État français, qu'on souligne dans le livre, va depuis la royauté, l'Empire, la Troisième République, la Quatrième République, la Cinquième République. Vichy n'a pas vraiment été une rupture dans le colonialisme. Et donc tout ça, on ne peut pas dire la République française pour parler de toutes ces institutions-là, alors que l'État français reste un mot qui est continu à travers toutes ces époques.
Il y a en France des luttes, qui ont éclaté au moment de la Commune, par exemple, opposant, deux visions de la France. Et ce qui, actuellement, vous le soulignez, effectivement, ceux qui sont au sommet de l'État français, sont plus proches de ce qu'était Versailles. De la même manière, ce qui s'est passé lors du Rwanda, et je pense que quand la vérité éclatera au jour par rapport au Rwanda, ça sera quelque chose qui risque de balayer effectivement toute une fraction de la classe politique. C'est pas un hasard, je pense, si les deux partis qui étaient au pouvoir au moment de la cohabitation se sont effondrés. C'est un peu comme les histoires de secrets de famille, quoi. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là...
Il faut qu'on conclue quand même.
Oui, bien sûr, mais c'est pour conclure. Je pense qu'il est temps peut-être de se réapproprier par l'imaginaire la notion de ce que c'est que la France. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, liberté, égalité, fraternité. Voilà.
Moi, je me sens très proche de la fin de votre intervention, pardon, parce que j'ai dû partir. Effectivement, ma France n'est pas celle d'Hubert Védrine.
Je vous invite maintenant, les copains me font signe, à rester avec nous pour un moment informel et à partager les derniers échanges et le verre de l'amitié. Je vous signale bien évidemment, pour les rares qui n'auraient pas vu, la table de presse qui vend le livre dont nous avons parlé ce soir. À très bientôt dans d'autres
émissions.
Si vous avez été intéressé, n'hésitez pas à regarder sur le site de Survie. Vous verrez que d'autres dates vont permettre de montrer, de parler de ce livre. Dès jeudi, à la librairie.